sans apport et jusqu'au 29 juin, on y va. La MG4 berline compacte 100% électrique est à partir de 249 € par mois sans apport sur les modèles en stock uniquement. Exemple pour une MG4 MY 2023, 9 en stock, LLD 49 mois, 40 000 km. Offre à particulier non cumulable valable jusqu'au 29 juin 2024 dans le réseau participant s'y accorde Rivalialis France. Conditions sur mgmoteur.fr. Essayez, comparez. Vous choisirez MG. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, super votre appli mon Leclerc, je ne manque plus aucune promo.
Ah, tant mieux.
Mais vous auriez pas une appli pour intégrer ma carte de fidélité?
Bien sûr, l'appli mon Leclerc.
Mais celle-là, je l'ai déjà.
Justement, on récapitule. Avec l'appli mon Leclerc, consultez toutes nos promos, activez vos bons de réduction et conservez vos tickets de caisse. Elle fait tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Disponible sur iOS et Android. Plus de détails sur www.e.leclerc, rubrique application mobile.
Il est midi, bienvenue sur Nostalgie. Mylène Farmer dans 3 minutes. Et les infos, Nicolas Beaubois, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et tous. L'actu de cette mi-journée de dimanche marquée par les élections européennes. Dernière ligne droite pour les candidats avant le scrutin dimanche prochain. Ces envois également deux ballons depuis la Corée du Nord vers la Corée du Sud. Des ballons un peu spéciaux, explication dans un instant. Du tennis aussi avec les huitièmes de finale à suivre ce soir à Roland-Garros. À 20h15, Corentin Moutet affronte le numéro 2 mondial. Et puis le temps encore perturbé à l'est, plus calme à l'ouest. Un dimanche de campagne, donc à 7 jours des élections européennes, les candidats entament la dernière ligne droite. 5500 sympathisants du Rassemblement National sont attendus cet après-midi au Dôme de Paris, porte de Versailles, pour le dernier meeting de Jordan Bardella. Marine Le Pen doit également y assister. À Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, la candidate Europe Écologie Les Verts, Marie Toussaint, attire également un meeting. Et alors que les derniers sondages de sa liste lui donnent autour de 5 à 6% des intentions de vote, Marie Toussaint appelle à se méfier des contrefaçons et prévient, le risque c'est de s'endormir le 9 juin en ayant voté Raphaël Glucksmann, tête de liste Parti Socialiste Place Publique, et de se réveiller le 10 juin avec le retour de François Hollande. Et pour rappel, pour ces élections, ce sont 360 millions d'Européens appelés aux urnes. Le scrutin s'étalant du 6 au 9 juin prochain, et tout cela pour élire 720 députés européens. L'info également avec la Corée du Nord. Pyongyang a envoyé 600 nouveaux ballons remplis de déchets allant de mégots de cigarettes à du plastique en passant par des excréments d'animaux. C'est ce qu'indique l'armée sud-coréenne. Ces envois nord-coréens ont débuté mardi et Séoul a condamné mercredi cette action qualifiée de bas étage. Le ministère sud-coréen de l'unification a lui averti de contre-mesures si Pyongyang ne cessait pas ses provocations irrationnelles. En bref, près de 100 millions d'électeurs appelés aux urnes au Mexique pour élire la première présidente dans l'histoire du plus grand pays hispanophone au monde. Direction la porte d'Auteuil à midi 2 avec Roland Garros. Corentin Moutet défie ce soir à 20h15 le numéro 2 mondial, l'italien Sinner, en 8e de finale du tournoi. Tournoi ayant vu Novak Djokovic hier soir, numéro 1 mondial et tenant du trophée, s'imposer face à l'italien Lorenzo Musetti et au bout de la nuit et après 4h30 de jeu.
Anticipez avec la météo. Anticipez aussi votre retraite avec l'assurance Agipi.
Ça c'est fini quand vous vous êtes réveillé en fait.
Voilà.
Et le soleil se réveille lui aussi, il arrive bientôt.
Oui, alors ça dépend où Julien, parce que des pluies soutenues sont attendues cet après-midi sur l'Alsace et en allant vers le Jura. Pluie également sur la Côte d'Azur avec des orages pouvant être forts. En revanche, les pluies seront plus rares vers le centre-est. Le soleil s'imposera sur le quart nord-ouest. Demain matin, des brouillards fréquents en allant du sud-ouest au nord-est. Le ciel sera bien dégagé au nord-ouest et près de la Méditerranée. Un côté Mercure pour votre après-midi, comptez de 15 à 25 degrés. Demain matin, les valeurs seront comprises entre 8 et 16 degrés du nord au sud du pays. Midi et presque 4 minutes, c'est un 12-18 en public avec Mélanie Renaud puisqu'elle est encore là.
Qu'est-ce qu'elle vous dessine sur votre feuille? J'aimerais bien savoir.
Ah, si vous saviez, oui. Elle aime beaucoup oui. La Corée du Nord et les envois de ballons.
Super, merci. Bisous à vous deux. Alors, y a-t-il des sosies de Mylène Farmer de l'autre côté du poste dans le cadre de ses séries d'été? La Dépêche du Midi cherche des sosies de stars. Voici la vraie Mylène avec l'un de ses plus grands tubes sur Nostalgie.
suis trop à bien s'entendage. Mon Dieu que c'est démodé. Il n'y a plus ultra en ce paysage. C'est des mille de côté. Hey, ta majesté jamais ne te déplace sans ton petit oreiller. À jamais je suis ton unique classe. Tous mes capris à payer. Tu fais des arts et beaux derrière ton ouvrage. Comme un petit pantalon. Te bouer de dos sans perdre courage.
Très bien, merci Sandrine. Et pour en savoir plus sur INH Inside Home, rendez-vous sur laposte.fr/INH ou au 3634.
Vous écoutez
RMC Carrefour.
Quand vous me dites oh, quand mes enfants rentrent du sport, c'est direct une machine. Eh bien, je vous réponds que pour nos millions de supporters, il y a 68% de remise immédiate sur la deuxième bouteille de lessive liquide Ariel 24 lavages achetés. Les deux bouteilles sont à 11,19€, soit 23 centimes le lavage seulement. Et c'est jusqu'au 9 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Vendu seul 8,48€, 1,08 litres, soit 5,18€ le litre. Détail sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Renault.
Parlons automobile. Parlons de Renault, numéro 1 des ventes de véhicules hybrides en France. Parlons de nouveau Renault Captur E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% d'économie de carburant. Jusqu'à 80% de conduite électrique en ville. Et jusqu'à 1000 km d'autonomie. Portes ouvertes du 13 au 17 juin.
Numéro 1 en 2023. Données WLTP, voire conditions sur Renault.fr. Renault. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Barcelone.
Oui.
Majorque.
Aussi.
Naples. Oh, les Cinq Terres.
Oh, si tu veux.
Alors, on choisit.
Choisissez-les toutes et vivez la magie de l'été avec Costa. Croisière de 7 nuits en pension complète à partir de 699€ par personne. Réservé avant le 9 juin. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa.
Un pare-brise à remplacer? Un impact à réparer? Prenez rendez-vous en 3 minutes sur carglass.fr ou appelez-nous au 3044. Et jusqu'au 28 juin, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre un produit Karcher. Un lave-vitre ou un aspirateur d'une valeur de 60€, c'est offert. Et oui, c'est vous qui choisissez le produit Karcher que vous voulez. Alors prenez vite rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous gratuitement au 3044.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Bonsoir, c'est le livreur Amazon.
Oh, Joe Wilfried Tsonga.
Amazon vous livre Roland Garros. Dès le 26 mai, profitez des 11 matchs du soir en direct et en exclusivité sur Prime Video. Inclus avec votre abonnement Prime. Abonnement payant obligatoire, voire tarifs et conditions sur amazon.fr/prime.
Il n'a pas de mémoire, encore moins de super pouvoir. Sa femme avait même cessé d'y croire. Mais...
Ah, allopneu.com.
Il a fait changer ses pneus sur allopneu.com. Sur allopneu.com, c'est simple. Choisissez vos pneus en ligne parmi les plus grandes marques et au meilleur prix. Et c'est rapide. Faites monter vos pneus directement à domicile ou dans un garage partenaire près de chez vous.
Allopneu.com.
Choisissez, c'est monter. Élu meilleur e-commerçant de l'année 2024.
Spoticar, des occasions pleines d'avenir. La très belle garantie Spoticar continue avec notre opération. 4 ans de garantie offerte en finançant votre véhicule d'occasion. Bénéficiez même d'une garantie pouvant aller jusqu'à sa 8e année. Offre valable du 23 mai au 5 juin pour les 300 premiers contrats. Et maintenant, la partie rapide. Extension de garantie facultative non cumulable, valable en location longue durée 48 mois sur 60 000 km pour les véhicules thermiques de moins de 4 ans Spoticar Premium. Si acceptation crédit par oyas.fr numéro 07004921. Conditions sur spoticar.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Midi 13h, les Paris RMC.
Jean-Christophe Drouet.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Bonjour à tous, midi 09, les Paris RMC, c'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche de midi à 13h pour tout savoir sur vos paris du jour. On va évidemment, comme d'habitude, vous conseiller au mieux. Enfin, on va tenter. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et hier, par exemple, Denis Charvet nous avait dit, il faut jouer le 1-0, 2-0 pour le Real Madrid, but de Vinicius. Et vous allez vous régaler. C'était une très belle cote à 8 ou à 8,50 proposée par notre ami Denis Charvet. On l'embrasse, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Dans quelques instants, du football également, c'est le barrage Ligue 1, Ligue 2, Metz, Saint-Etienne, le match retour. Les Verts qui se sont imposés 2-1 au match aller. Qui va aller en Ligue 1? C'est très simple. Metz ou Saint-Etienne, s'il y a une pièce à mettre. Midi 30, la Dream Team des Paris. Vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match du jour. Il sera question de foot avec ce France-Luxembourg. C'est le premier match de préparation à l'Euro 2024. C'est mercredi. On va commencer à en parler, mais également, évidemment, Roland-Garros avec notamment le match que l'on attend tous ce soir en Night Session entre le Français Corentin Moutet et Yannick Sinner. Et puis midi 45, une énorme cote à vous proposer et le grand gagnant de la semaine. Les Paris RMC, ça commence tout de suite. La seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier.
Les Paris RMC.
Une belle tête de vainqueur.
Les belles têtes de vainqueur dans les Paris RMC. Christophe Payet, Lionel Charbonnier, Roland Courbis. Salut les parieurs.
Salut JC, salut les amis.
Salut les amis. Bon,
Christophe, dans l'ensemble,
j'ai pas une tête de vainqueur, moi.
Une belle tête de vainqueur.
Moi, c'est tête de vaincu.
Voilà, ça peut marcher. C'est vrai qu'on a quand même globalement été plutôt pas mal sur la finale de la Ligue des Champions.
Oui, effectivement. Bon, il a quand même marqué pour la plupart.
Les deux buts qui marquent, les deux équipes qui marquent.
Voilà. Ouais. Sinon, c'était parfait.
Ok. Bon, bravo à Denis en tout cas.
Ça s'est joué à un poteau ou un hors-jeu de 10 cm hein, pour que les deux marquent.
Non, mais ce qui est surtout extraordinaire, c'est la fausse joie à la 88e minute. Tu vois, tu te dis, bon, youpi. Eh ben non, il y a le drapeau qui se lève aussi. Il y a même ça.
Il y avait hors-jeu.
Ah ben oui, d'accord. Mais quand il a marqué, j'avais pas vu qu'il était hors-jeu de 10 cm.
Et t'as bondi.
Moi non plus.
Oui, les deux équipes ont marqué.
Au moins ça, tu vois. Donc, ouais.
Je passe ma banquerolle.
C'est une soirée horrible pour moi quand je vois la première mi-temps avec Dortmund qui n'arrive pas à marquer au moins un but sur ses 5 occasions. J'ai dit, bon, mais c'est encore pas la soirée de.
C'est pas grave, Roland, tu peux te rassurer. Oui. Maintenant, on fête plus les beaux losers, donc c'est bien.
Ouais, d'accord, c'est vrai, ça j'avais pas pensé.
Bon, allez, tout de suite, le barrage de la Ligue 1.
Les Paris RMC,
l'affiche de Ligue 1.
Alors, c'est à 17h en fin d'après-midi, à suivre en direct en intégralité sur RMC. C'est le match retour entre Metz et Saint-Etienne. Qui va jouer en Ligue 1 la saison prochaine? Est-ce que c'est Metz qui reste en Ligue 1? Est-ce que c'est Saint-Etienne qui monte de Ligue 2 au match aller? Les Verts se sont imposés 2-1. Quels sont, tout d'abord, Christophe, les codes de cette rencontre? C'est important. Mais aussi, ensuite, évidemment, celui qui se qualifie.
2-45. La victoire de Metz, 3-35. Le match nul, Saint-Etienne est à 2-85. Metz reste en Ligue 1, 2-75. Saint-Etienne monte en Ligue 1, 1-40.
1-40, donc Saint-Etienne est largement favori pour les bookmakers pour monter en Ligue 1. On imagine après ce match aller. On l'imagine.
Ah bon?
Et d'ailleurs, après les déclarations aussi.
Je précise d'ailleurs que c'est comme en Ligue des Champions. C'est-à-dire que en cas d'égalité, il n'y a pas de but qui compte double à l'extérieur. En cas d'égalité, s'il y a 1-0 pour Metz, s'il y a 3-2 pour Metz, 4-3, 19 si vous voulez, bah, ce seront les prolongations puis la séance de tir au but. Voilà, c'était important de le préciser. Et quand on parle de la victoire de Metz à 2-45, c'est à l'issue des 90 minutes. La musique qui fout les jetons, et cette question. C'est simple aujourd'hui. Qui va jouer en Ligue 1 la saison prochaine? Metz ou Saint-Etienne? Lionel Charbonnier.
Saint-Etienne.
Roland Courbis.
Metz.
Christophe Payet.
Saint-Etienne.
De Saint-Etienne, un Metz, on va retrouver notre correspondant en Lorraine, Patrick Muller. Salut Patrick.
Salut Jean-Christophe, je ne saluerai que Roland aujourd'hui. Hein.
Salut.
Je comprends. Salut, franchement, je comprends. De toute façon, c'est ce qu'on fait.
Mais attends,
aussi.
J'ai des explications quand même. Hein.
Ah, c'est bien.
Bonne ou pas bonne, j'ai des explications.
Déjà, au niveau des compositions d'équipe, des forces en présence, qu'est-ce qu'on peut dire ce matin à tous nos auditeurs, Patrick?
Rien de particulier s'agissant de Saint-Etienne. A priori, on aura le même 11. Côté Messin, peut-être l'entrée en jeu de Ablaye Diallo sur le côté droit, sachant que Sabali, sur le match 1, le match aller, avait été sorti à la mi-temps, que Vanden Kerkhoff avait été plutôt décevant en deuxième période. Donc, a priori, ce serait le seul changement. Et peut-être Lamine Camara qui sortirait aussi de ce 11 de départ. Et ce serait éventuellement Arthur Atta qui le remplacerait. Voilà, ça c'est un petit peu les petites infos compos. Après, sur la logique sportive et sur les dynamiques en cours, c'est sûr que ça penche clairement en faveur de Saint-Etienne. C'est quand même une équipe qui était de mémoire 11e au début du mois de février avant d'enchaîner 10 victoires en 12 matchs. Il y a eu quelques occasions manquées à l'issue de la saison régulière, mais il y a eu ce match 1 face à Metz qui a été dominé et gagné par les Messins. Et côté Messins, on est sur 5 défaites consécutives, un match raté du côté de Saint-Etienne, même s'il y a eu des opportunités. Un contexte en coulisses, ce qui n'est pas extraordinaire non plus, puisqu'on annonce que ce serait peut-être le dernier match de l'ASL Bologna. Pierre Vray aussi, le directeur sportif, est en partance du côté de Lens. Le dernier match de Miko Tadze, puisque l'option d'achat a été levée concernant ce joueur en vue d'une revente et d'une forte plus-value. Maintenant, ce qui peut pencher du côté de Metz, c'est cet aspect émotionnel. On est un an jour pour jour après cette folle soirée de la montée l'année dernière en Ligue 1, avec cette soirée qui a retourné d'émotion un club, pour ne pas dire une ville. Là, il y a encore un départ de supporters qui partiront en cortège de la Place de la République à 13h30 pour se diriger vers le stade. Le stade sera plein, 27 000 personnes à Saint-Symphorien, sixième match à guichet fermé. Voilà, le club, et là d'ailleurs il y a eu un appel au public de la part de l'ASL Bologna, le club mise clairement sur ses supporters et sur cette idée-là, que voilà, il peut y avoir un élan autour de ce match et de cette équipe.
Parfait, élan autour de Metz. Patrick, évidemment, tu restes avec nous, tu nous donneras un petit bonbon, toi qui suis les Messins depuis le début de la saison, il y a peut-être un buteur ou autre chose à aller chercher. Roland.
Ben, c'est-à-dire que, bon, évidemment, j'ai regardé le premier match avec beaucoup d'attention, j'ai vu comme tout le monde Saint-Étienne est meilleur que Metz et marquer ce deuxième but, où c'est plutôt une erreur d'un Messin qu'un exploit d'un Stéphanois. Mais j'ai vu aussi des crampes sur certains joueurs de Saint-Étienne dans les 20 dernières minutes, dans le dernier quart d'heure. Et là, je ne sais pas si on se rend compte, mais Saint-Étienne va être, au niveau des émotions et au niveau des efforts, au troisième match en 7 jours, avec donc des joueurs qui m'ont paru quand même assez fatigué d'avoir à digérer le match de Rodez et la qualification contre Rodez. Donc, je m'imagine Saint-Étienne faire un bon match, bien évidemment, mais avoir des difficultés dans la deuxième partie du match, je parle peut-être aussi dans la prolongation, et donc je vois Metz, par contre, être obligé de faire mieux qu'au match aller, parce que c'est difficile de ne pas faire mieux, je les ai trouvés très, très moyen. Donc je vois les Messins gagner ce match-là et aller au moins en prolongation. Donc voilà comment je vois ce match-là. Je ne vois pas du tout Saint-Étienne s'imposer à Metz.
On rappelle que si vous voyez une prolongation, il faut jouer Metz qui gagne, parce que forcément ça vous couvre. Si Metz gagne 3-1, 4-1 ou 2-0 et qu'il n'y a pas de prolongation, Metz qui gagne, on rappelle déjà, c'est une très belle cote. Hein.
Metz qui gagne en 90 minutes, c'est 2,45. Metz qui reste en Ligue 1, c'est 2,75.
Oui, mais si on voit les prolongations, c'est pas dit que Metz reste en Ligue 1.
Absolument. Tout à fait.
Et d'ailleurs, si on veut jouer les prolongations, on peut pas, au final.
Et
si,
non, mais par contre, on peut jouer tir au but.
Alors, la
si on peut jouer le 1-0, 2-1.
Ben non, c'est Metz par un but d'écart.
Ah oui, Metz par un but d'écart, bien sûr.
3,85.
Et au tir au but. Et Metz au tir au but.
Alors, c'est justement, j'ai cherché ce matin et il ne le propose pas, prolongation et tir au but.
Ah bon.
Alors, ça va peut-être venir d'ici le début du match, mais il y a encore une heure, il n'était pas proposé.
Lionel Charbonnier sur cette rencontre.
Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de tensions. C'est pas qu'une impression. Ça va être un match très tendu. Et surtout, ce que je peux entendre, ce que je peux voir de par les comportements, que ce soit Bologna qui me paraît un petit peu à côté de ses pompes actuellement dans son management, les tensions dans les déclarations des joueurs et de l'entraîneur, les tensions, on se rappelle ce qui a été dit par exemple d'un des joueurs qui avait complètement irrité le Bologna.
Mais je pense qu'il avait mal compris ce que voulait dire Udol.
En gros, ils n'étaient pas dans le match et lui avait dit après, s'ils n'arrivent pas à se motiver, faut que je desserre son contrat.
Ouais, parce que lui en prêt justement, juste après, alors il s'est fâché et puis juste après il disait la même chose que son joueur. Donc je pense qu'il n'y a pas une grande maîtrise. Pour moi, il ne maîtrise plus rien. J'ai l'impression que cette pression négative et Roland en parlait. Eh ben les joueurs messins ne la supportent pas. Il y a trop d'erreurs individuelles et ça c'est symptomatique justement quand t'arrives pas à gérer cette pression. Je comprends les messins. Attention, je veux pas leur taper dessus, mais il y a trop de manquements. Même Miko Tadze, j'ai l'impression qu'il est déjà parti. Bologna aussi. Je pense qu'ils ont arrêté. Et puis de l'autre côté, c'est quand même une dynamique beaucoup plus positive. Les messins sont sur 5 défaites d'affilée, alors que les Stéphanois sont sur 2 victoires d'affilée. La dynamique est beaucoup plus positive. Olivier Dalloglio semble mieux maîtrisé, son vestiaire aussi. Donc moi, je donne franchement un gros avantage aux Stéphanois aujourd'hui.
Et on va vous donner des codes dans quelques instants. Christophe Payet.
Je suis d'accord avec Lionel. Je pense qu'effectivement Bologne est complètement dépassée par les événements. Je pense aussi qu'effectivement Roland a raison. Il y a peut-être un côté fatigue du côté de Saint-Etienne, mais c'est le seul bémol en fait. Alors qu'à Metz, ben il y en a des bémols. Hein. 5 défaites d'affilée, tu l'as dit. 5 buts marqués seulement. En plus de ça, cette équipe a joué 17 fois au Stade Saint-Symphorien. Elle a gagné 3 matchs. Donc c'est quand même très très peu. En plus de ça, on l'a vu aussi, Saint-Etienne propose vraiment beaucoup plus de jeux que Metz. Metz, c'est on envoie la balle à Mikotadze et débrouille-toi. Et le problème, c'est que Mikotadze, ça a été l'arbre qui cache la forêt depuis quelques mois, depuis qu'il est revenu à Metz. Mais là, il est quand même sur 2 matchs sans marquer. Et si Mikotadze marque pas, bah, il y aura des soucis pour les Messins qui sont incapables de produire du jeu, de construire une vraie action de jeu et qui arrivent parfois quand même à marquer un but sur coup de pied arrêté. Mais c'est coup de pied arrêté ou exploit de Mikotadze. Pour toutes ces raisons, je ne vois pas du tout Saint-Etienne perdre et je pense que Saint-Etienne ira en Ligue 1.
Ok, mais maintenant il faut jouer quoi? Parce que Saint-Etienne évidemment peut aller en Ligue 1, mais
et
peut aussi en Ligue 1 avec un match nul.
Ça va être un match bien fermé avec une équipe de Saint-Etienne qui a la meilleure défense de Ligue 2. Et pour moi, Metz, c'est une équipe de niveau Ligue 2.
Ok, quelles sont les différentes cotes?
Donc je vous rappelle 2,85 Saint-Etienne, 3,35 le nul, 2,45 Metz. Le 0-0 à la mi-temps à 2,60, ça se tente, à mon avis.
C'est pas mal, ça.
Le nul à la mi-temps à 1,98, au cas où il y aurait un partout, mais j'en suis même pas convaincu. Saint-Etienne ne perd pas, et moins de 3 buts dans le match, c'est 2,40. Moins de 4 buts dans le match, c'est 1,92. Alors là, ça me paraît être un coup sûr qu'il y ait moins de 4 buts dans ce match. Mais...
Qui ressort en futur qui est.
Garnier, par exemple.
Évadez-vous avec Mylène.
Et derrière dans la mobilisation ne peuvent plus te.
Oh. Hey, ma...
Occupe-les-en, ils vont le voir.
Permanent sur notre sol. Bon, il y a quand même
145 bis, avenue de la République.
Victime d'une commotion, ne reste pas seule chez elle. Bah.
Bricot rouge du Roussillon n'a pas le même goût qu'un.
Ah, tant mieux.
Mais vous auriez pas une appli pour intégrer
le lavage seulement. Et c'est jusqu'au 9.
Levez cette équation, c'est-à-dire, si vous remettez des cotisations à la...
Président.
Des épisodes de la série de...
médicale qu'après la disparition.
0-1, tu vois. Moi, je la vois comme ça.
Moi, je vais jouer Saint-Etienne qui ne perd pas. Par contre, je suis d'accord avec Christophe sur le match très, très fermé, notamment première mi-temps. Donc, tu vois.
Un petit peu granuleux, qui est très, très agréable. Léger en fruits, puisque je crois que tu es à 45% de sucre à peu près, en produit fini, ce qui permet.
Léger en sucre.
Donc léger en sucre, ce qui permet justement d'avoir tous ces parfums de fruits qui ressortent.
Avec quelle recette
Stéphane Perrot, avez-vous gagné donc le championnat du monde de la confiture en 2015?
En 2015, c'était le fruit imposé était la framboise.
Et, c'était imposé.
Voilà.
J'allais vous demander
les fruits imposés sur ce concours. Donc le fruit imposé était la framboise et à cette époque, on avait encore trois produits à présenter. Donc la framboise, il y avait la framboise nature. Donc nous, on a travaillé la variété donc Mecker, qui est une variété qui est produite justement en Normandie. On a un producteur en Normandie sur cette variété-là. On a fait après une association de fruits, puisqu'on nous demandait un accord fruit. Donc on a fait une framboise abricot pêche jaune pour jouer sur les textures. Donc avec les petites lamelles de pêche, les petits cubes d'abricot pour avoir vraiment les marquants. Et puis après, on avait fait une création gustative où on avait joué sur de la fraise framboise avec du saumur champigny, puisqu'on est dans la région de l'Anjou. Donc on a travaillé un vin de la région. Et on avait travaillé du poivre de cassis, qui est une épice qui vient de Bourgogne, donc qui est ni plus ni moins du bourgeon de cassis déshydraté, réduit en poudre, qui amène les notes florales, un peu comme quand on froisse une feuille de cassisier.
C'est aussi un point commun que vous avez tous les deux, Stéphane Perrot et Christine Ferber, c'est que vous vous amusez à créer des associations. Je donne un seul exemple, Christine Ferber, c'est la banane orange maltaise. Et pour vous, Stéphane Perrot, c'est des associations parfois jamais vues. Vous avez même une gamme qui s'appelle cueillette sauvage, où vous mêlez les fruits frais, les plantes de cueillette, comme l'abricot et la reine des prés, la figue, l'orange et la berce, par exemple. Donc vous avez des associations très différentes. Mais vous avez devant vous un pot de confiture de Christine Ferber qui n'est pas là, donc elle ne peut pas participer au goûter de ses propres confitures. Mais je vous ai posé, pas par hasard, un pot de confiture de framboise fine et pépinée, donc très différente de vos propres framboises en confiture. Stéphane Perrot, à vous de la goûter et de nous dire ce que vous sentez.
Moi, ce que je vois déjà en premier, c'est le visuel, c'est-à-dire qu'on a une couleur très franche, très rouge de la framboise. On a une texture qui est très souple. Donc on voit vraiment que, je dirais que c'est presque, on sent vraiment la pulpe de la framboise qui vient juste d'être extrait, qu'on vient de presser. Et puis l'odeur au nez qui est vraiment très franche. Et à dégustation. C'est là qu'on a toute la qualité, parce qu'on n'a pas une confiture cassante. Comme je peux le voir des fois, il y a des gens qui travaillent avec de l'agar agar, très cassant. Là, on a un produit qui est très fondant, c'est un petit bonbon. On a l'acidité qui revient de la framboise, ce petit taux de sucre là qui nappe légèrement la langue pour amener de la longueur, et toute la puissance aromatique de la framboise. Moi, je dis, je pense qu'on a un métier qui est juste merveilleux. On est comme les cuisiniers, on a chacun notre patte. Et voilà, Christine a un truc. Moi, je suis amoureux du travail de Christine depuis que j'ai découvert son travail. Voilà, on est juste des passionnés et des amoureux de notre métier.
Mais évidemment, cette fabrication artisanale avec des producteurs que vous payez bien, avec le travail que vous faites à la main l'un et l'autre, et avec ces associations et ces créations, puisque vous êtes des cuisiniers du fruit, tout ça, ça a un prix. C'est-à-dire que vos pots sont relativement chers, évidemment, par rapport à une confiture industrielle, d'hypermarché, de supermarché. C'est en moyenne 10,80€ pour 200 grammes chez Christine Ferber, et c'est 9,90€ les 210 grammes chez vous, Stéphane Perrot. Ça s'explique quand même ? Ça se justifie ?
Oui, ça se justifie, parce que vous voyez, je prends l'exemple, on a fait un petit post il y a cette semaine, en fin de semaine, pour expliquer, parce que quand vous faites un travail où vous prenez par exemple les cerises, là on est en ce moment sur la saison des cerises, et que à 4 personnes vous dénoyautez 10 kilos à l'heure de cerises tout à la main, ben voilà, c'est aussi un coût et un travail. C'est un travail manuel pour être sûr qu'on n'ait pas un noyau de cerises dans le produit. Donc y a un contrôle permanent à la fois de la qualité du fruit, du respect du fruit, et puis un contrôle pour qu'on n'ait pas ce petit noyau justement à l'intérieur.
Un grand merci à tous les trois. Stéphane Perrot, alors la maison Perrot, le magasin principal est à Angers, mais la boutique est bien entendu en ligne. Christine Ferber, on peut vous trouver sur le site edelis.com, on peut vous trouver aussi à la grande épicerie de Paris, et puis bien entendu, vous êtes en ligne également. Et puis on rappelle le livre de Cyprien Parmentier, La grande histoire de la confiture, avec 210 recettes originales. Vous nous en offrez une sur le site de l'émission Les confitures de pommes, qui date de 1545. Je mettrai ça évidemment sur notre site des Bonnes Choses. Merci encore à tous les trois. Les Bonnes Choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France, avec Siam Boutata à la préparation, Colin Gruel à la réalisation, Sébastien Royer à la prise de son. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.
France Culture. l'esprit d'ouverture. En 2019, un ancien résistant révèle l'existence de fosses contenant des soldats de la Wehrmacht exécutés par la résistance le 12 juin 1944 dans la forêt de Meymac. Il brise le silence. Une histoire particulière. Meymac, la fosse aux soldats de la Wehrmacht. Un documentaire de Maïlys Bessery, réalisé par Yvon Croisier, ce week-end à 13h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
La dictée s'invite en gare. France Culture et SNCF Gare et Connexion proposent 5 dictées inédites lues par Rachid Santaki et ses invités autour de la musique en fête. Amoureux des mots, adeptes de l'orthographe, mais aussi écoliers, étudiants, passants ou voyageurs en transit, parviendrez-vous à réaliser un sans-faute? Rendez-vous mercredi 5 juin de 10h à 16h dans le hall principal de la gare de Nîmes Centre. Plus d'infos sur le site de France Culture.
Il est 12h30 sur France Culture. Les informations sont présentées ce midi par Jeanne Serin. Bonjour Jeanne.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Près de 100 millions d'électeurs se rendent aux urnes aujourd'hui au Mexique. Une femme devrait être élue présidente dans un pays miné par les violences de genre. Mais les associations féministes ne sont pas convaincues du changement que cette élection pourrait opérer. La Suisse en croisade contre les espions russes. Le Parlement souhaite faire adopter un texte pour expulser ces agents et notamment ceux qui agissent sous couverture diplomatique. Ils sont nombreux dans le pays, nous dira notre correspondant. Une sonde spatiale chinoise s'est posée ce matin sur la face cachée de la Lune. Une mission de 53 jours et qui doit permettre de réaliser les tout premiers prélèvements sur cette face de notre satellite. Enfin, l'Algérie demande des restitutions de biens à la France. Nous en parlerons avec l'invité de ce journal, l'historien Benjamin Stora, coprésident de la commission franco-algérienne chargée d'étudier la colonisation et la guerre d'Algérie. Ce dimanche, près de 100 millions de Mexicains sont appelés aux urnes. Deux femmes sont candidates à l'élection présidentielle. À gauche, Claudia Sheinbaum, l'ancienne maire de Mexico, fait pour le moment la course en tête face à la candidate de la droite. Les deux femmes se revendiquent le titre de féministes, mais les mouvements féministes, eux, ne se reconnaissent pas forcément dans les programmes des deux candidates. À Mexico, Emmanuel Stills.
Chaque année, environ 900 féminicides sont commis au Mexique et la plupart de ces crimes restent impunis. Dans ce contexte, l'arrivée d'une femme à la présidence suscite un courant d'espoir parmi les féministes. Une présidente sera-t-elle plus sensible aux questions des violences contre les femmes? Mobilisera-t-elle tous les moyens pour enrayer ce fléau? À la vue du programme des candidates, Constanza Carrasco de l'organisation féministe Intersecta se montre sceptique.
Les propositions des deux candidates pour éradiquer la violence contre les femmes vont uniquement dans le sens de la criminalisation. L'accent n'est pas mis sur la prévention ni sur les causes structurelles de cette violence.
Les deux candidates, tant Sheinbaum que Galvez, se disent féministes, mais c'est une étiquette qui ne conditionne pas forcément les politiques de la future présidente, d'après Carol Arriaga, féministe et conseillère du parti de Sheinbaum, Morena.
Le fait qu'une femme accède à la présidence ne signifie pas forcément que ce sera un gouvernement féministe. Il y aura des avancées, mais pas radicales. Je crois que les changements sont progressifs, graduels.
Les féministes le reconnaissent, la future présidente sera jugée plus durement qu'un homme sur son action en faveur des droits des femmes.
Emmanuel Stills à Mexico. Nouvelle réunion aujourd'hui en Égypte des médiateurs qataris, américains et égyptiens. Ils appellent Israël et le Hamas à finaliser le plan pour un cessez-le-feu présenté avant-hier par le président américain Joe Biden, alors que plusieurs ministres israéliens d'extrême droite menacent de démissionner du gouvernement si cet accord est adopté. Et de nouveaux bombardements israéliens ont ciblé Rafah ce matin. Volodymyr Zelensky à Singapour ce matin en marge d'un forum international sur la sécurité. Le président ukrainien s'est dit déçu que certains dirigeants ne se soient pas engagés à participer à un sommet pour la paix en Ukraine organisé ce mois-ci en Suisse. Le président américain Joe Biden ne s'est pas encore engagé, la Chine n'y participera pas. Et Volodymyr Zelensky accuse ce matin Pékin de bloquer la participation de certains pays à ce sommet prévu à Genève. La Suisse, qui tente de serrer la vis face aux tentatives de déstabilisation des services de renseignement étrangers. Le Parlement demande au gouvernement d'expulser tous les espions qui menacent la sécurité nationale. Personne n'est visé explicitement, mais tous les regards se tournent vers la Russie. À Genève, Jérémy Lanche.
Depuis 2 ans, les pays de l'Union européenne ont expulsé plusieurs centaines de diplomates russes accusés d'espionnage. La Suisse, zéro. La dernière fois qu'elle l'a fait, c'était dans les années 90. Pourtant, de l'aveu même du renseignement helvétique, un tiers des diplomates russes en poste à Berne ou à Genève sont en réalité des espions. Jean-Marc Ricli est le directeur des risques globaux et émergents au Centre de politique de sécurité de Genève.
La Suisse est un petit pays, mais par contre, par rapport à sa densité diplomatique, c'est quasiment une superpuissance. Genève a bien plus d'organisations internationales, peut-être 10 fois plus que Paris. Ce sont comme du miel qui attire des abeilles.
Des abeilles espions qui volent autour du siège européen des Nations Unies, de l'OMC, de l'Agence mondiale antidopage ou du CIO et qui lorgnent sans doute sur le sommet pour la paix en Ukraine prévu dans 2 semaines. Moscou a déjà lancé une campagne de déstabilisation avec la Suisse pour cible.
Vous avez sur certains réseaux sociaux des parallèles entre la coopération de la Suisse avec l'Allemagne nazie et maintenant la coopération avec le régime de Zelensky. En Russie, il y a une campagne de diffamation de notre ministre de la Défense, Madame Amert, qui a lieu. Il y a vraiment un durcissement des relations avec la Russie.
En demandant l'expulsion des espions sur son sol, la Suisse ne renonce pas à la neutralité pour autant, mais elle confirme sa volonté de l'adapter depuis que la guerre frappe aux portes de l'Europe.
Jérémy Lange, correspondant de RFI pour France Culture. Un nouveau cap franchi par la Chine, Pékin annonce que sa sonde spatiale envoyée début mai s'est posé dans la nuit sur la face cachée de notre satellite. Sébastien Berriot, vous êtes notre correspondant en Chine. C'est donc un nouveau succès pour l'ambitieux programme spatial chinois.
Oui, vous l'entendez, tonnerre d'applaudissements ce matin à 6h23 heure chinoise dans la salle de contrôle de l'agence spatiale à Pékin. La sonde Chang'e Liu s'est posée avec succès sur l'un des cratères d'impact de la face cachée de la Lune. Une opération assez complexe pour faire atterrir l'engin dans le bon sens et au bon endroit sur un terrain particulièrement accidenté. La sonde va désormais se mettre au travail grâce à une foreuse et à un bras robotique, elle va prélever de la roche et des échantillons de sol lunaire. 2 jours de travail prévus pour récolter 2 kilos de matière. Des prélèvements précieux de par l'âge géologique de la roche, plus de 4 milliards d'années, et aussi parce que c'est une première mondiale sur la face cachée de la Lune. Pékin y avait déjà envoyé une sonde du même type en 2019, mais celle-ci n'avait pas ramené d'échantillons. Une mission, et c'est intéressant de le souligner aussi, à laquelle la France participe de manière indirecte aux côtés de la Chine. Le détecteur de radon embarqué par la sonde a été fabriqué par des scientifiques français à Toulouse.
Et Sébastien, la Chine ne va pas s'arrêter là, elle nourrit de grandes ambitions sur la Lune.
Oui, la conquête de la Lune par la Chine n'en est qu'à ses débuts et le programme qui a été établi pour la prochaine décennie est très ambitieux. Une nouvelle sonde doit être lancée pour explorer le pôle sud lunaire, une mission axée sur la recherche d'eau. La Chine a ensuite prévu de lancer une étude technique pour aboutir à la construction d'une base sur la Lune pour mener des expériences et l'objectif, c'est d'envoyer des humains sur cette base d'ici 2030. De quoi concurrencer sérieusement les autres projets, notamment américains. La Chine avance très vite grâce à des moyens impressionnants qui sont mobilisés, des dizaines de milliards de dollars.
Sébastien Berriot, correspondant de